19h13 sur Europe 1, la suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, et c'est l'heure de l'interview politique. Vous recevez le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari.
Bonsoir Jean-Baptiste Djebbari, merci d'être à mon micro ce soir.
Bonsoir à vous.
Jean-Baptiste Djebbari, on est là vendredi soir, heure souvent des départs en vacances, départs en week-end. Alors bien sûr, les Français sont confinés, mais savez-vous là, si les Français sont partis en vacances, en week-end, comment ça se passe sur les routes à l'heure où nous parlons?
Alors je faisais un point il y a une demi-heure avec Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF, qui me disait qu'il avait eu 3500 voyageurs sur TGV la semaine dernière et qu'il en a 4300 cette semaine, en tout cas ce vendredi, ce qui tend à confirmer que les Français respectent très bien ce confinement, que l'effort collectif que nous faisons de rester chez nous pour empêcher la propagation du virus est un effort réalisé par la très grande majorité des Français. Je tenais à évidemment aller remercier à votre antenne et puis dire que certes, lundi prochain est un jour férié, mais ce sera un lundi confiné. Et je ne doute pas que cet effort collectif paiera et nous permettra rapidement de retrouver une vie normale. Évidemment, c'est le but.
Donc les consignes à la veille de ce week-end de Pâques, enfin là, en ce week-end de Pâques qui démarre, c'est bien sûr rester chez vous, pas de route, pas de voiture, aucun moyen pour gagner une résidence secondaire ou un quelconque lieu de vacances, on est d'accord?
Ce sont les consignes que nous donnons depuis maintenant plusieurs semaines, c'est qu'on ne se déplace que pour les besoins essentiels, pour aller travailler si le télétravail n'est pas disponible, pour aller faire ses courses, pour aller voir sa grand-mère qui en a besoin, pour aller pour satisfaire les besoins impérieux essentiels à la vie normale.
Alors Jean-Baptiste Djebbari, vous l'avez dit, mais vous n'êtes pas le seul hein, d'ailleurs à l'avoir fait. Je conseille aux Français la plus grande prudence sur la préparation de leur voyage cet été. C'était mardi. Je voudrais qu'on développe un petit peu, Jean-Baptiste Djebbari, avec vous. Qu'est-ce que cela veut dire cet été? Est-ce qu'on s'arrête au mois de juillet? Est-ce que le mois d'août également est concerné? Quid à ce stade?
Non, mais je rappelais qu'effectivement, la prudence était de mise pour ceux notamment qui n'ont pas encore préparé leur voyage et qui envisageraient par exemple de se rendre à l'international, parce que je vous rappelle que nous sommes encore au gouvernement en train de rapatrier des Français. Mmh. C'est 156 000 Français que nous avons rapatriés depuis le 19 mars, c'est donc tout à fait considérable. Et nous avons encore un certain nombre de compatriotes qui sont en Nouvelle-Zélande, aux Philippines et pour lesquels nous mettons en œuvre des moyens importants pour les...
Combien de temps vous allez continuer à rapatrier des Français à l'étranger?
Ça va durer encore quelques jours, peut-être quelques semaines, parce qu'en fait, nous avons fait maintenant le plus gros. Je vous rappelle qu'au début, on avait 130 000 Français qui s'étaient déclarés en besoin d'un vol retour. Et nous avons rapatrié, je le dis depuis le 19 mars, 156 000 Français. Oui. Et donc, il y a toujours ici et là des demandes qui se font jour, qui sont de plus en plus compliquées, parce que les destinations sont de plus en plus lointaines, avec moins de monde, et donc possiblement avec moins de moyens d'affréter des avions. Donc, nous traitons ce sujet extrêmement sérieusement en lien avec Jean-Yves Le Drian. Mais pour revenir à votre question initiale, j'avais effectivement dit, tout en ayant... Croyez-moi, une conscience aiguë des difficultés du monde du tourisme, du transport et du voyage au sens large ces jours-ci, avec des dispositifs de soutien à l'État qui sont considérables. J'avais effectivement appelé à une prudence raisonnée, à un optimisme raisonné pour la suite.
Mais j'entends bien, Jean-Baptiste Djebbari. J'entends votre prudence. Je vous pose juste la question, parce que aujourd'hui, les Français font le distinguo quand même entre juin, juillet, août, évidemment, et notamment les trois premières semaines d'août qui sont traditionnellement les plus chargées. Il n'est pas non plus pour cet épisode-là, des trois premières semaines d'août, il n'est pas non plus préférable de réserver, y compris sur le territoire?
Vous savez, moi je ne veux pas ici à votre antenne faire l'oracle ou le prophète de tel ou tel projet de déconfinement et tel ou tel calendrier. Je pense que c'est pas... D'abord, nous n'en savons rien. Il faut avoir l'humilité de le dire réellement. Nous travaillons à différentes hypothèses de déconfinement, dans des scénarios, dans des calendriers qui eux aussi peuvent varier. Je pense que vraiment, vraiment, le message aujourd'hui, c'est d'être sérieux, discipliné dans le confinement et que nous avons une partie de la solution de l'équation entre nos mains. C'est que plus nous respectons ce confinement, plus nous serons en mesure de sortir rapidement, plus l'économie sera en mesure de repartir et plus, effectivement, les vacances seront à portée de main et chacun le souhaite. Et évidemment, je fais preuve, comme tous les Français qui peuvent partir, d'un optimisme raisonné sur la question. Mais je crois que réellement, l'heure est à la discipline collective.
Aujourd'hui, quelles sont les offres de transport pour les soignants, notamment Jean-Baptiste Djebbari? On sait qu'il y a Uber qui a lancé Uber Medix, qui propose des réductions. Comment inciter un peu plus encore les transports privés à multiplier ce type d'offres?
D'abord, il y a des offres qui sont faites par les opérateurs publics. Vous savez que la SNCF participe notamment au travers des TGV sanitaires à l'acheminement des patients en réanimation qui en ont besoin. Et c'est une vraie réussite. Vous savez que l'Espagne nous a contactés pour reproduire ce modèle. Il y a les taxis qui font un travail absolument remarquable en première ligne dans un effort national et patriotique que je veux saluer à votre antenne. Il y a les lignes dédiées de bus de la RATP qui ont été mises en œuvre. Et puis effectivement, il y a d'autres volonté de solidarité. Et évidemment, moi, je l'ai dit à l'ensemble de ces acteurs, la solidarité ne se divise pas. Et toute offre qui viserait à accompagner et à améliorer la vie des soignants, notamment ces jours-ci, est évidemment la bienvenue.
Jean-Baptiste Djebbari, évidemment, on parle des compagnies aériennes, le secteur du tourisme étant impacté comme jamais. Les compagnies aériennes, aujourd'hui, on a vu l'aéroport d'Orly fermé en partie. Vous vous attendez forcément à des défaillances de compagnies aériennes, peut-être les plus fragiles à ce stade. Combien de faillites estimées ?
Non, mais évidemment, le secteur va être très certainement profondément transformé. Et nous aidons toutes les compagnies aériennes à faire l'effort, ou en tout cas à venir à leur secours en matière de trésorerie, parce qu'à court terme, il y a très peu de vols, 2% des vols d'Air France par rapport à habituellement. C'était 18 vols avant-hier contre 1000 vols d'habitude. Vous voyez un peu l'écart.
Et donc, qu'une nationalisation de certaines entreprises de transport public est aujourd'hui à l'ordre du jour, oui ou non ? Et pour quelles
d'abord,
entreprises ?
Pour être très concret avec vous, s'agissant d'Air France KLM, puisque c'est un peu ce vers quoi vous m'orientez, nous avons dit que le gouvernement soutiendrait l'entreprise s'agissant des efforts à court terme, de la trésorerie, et nous avons dit que nous serions à même de construire une stratégie nationale, européenne, et que nous serions des partenaires d'Air France, comme nous sommes l'État, des partenaires et des actionnaires qui ont à cœur que leurs industries sortent renforcées de cette crise. Donc évidemment, que ce soit en augmentation de capital, en soutien par des prêts, bref, quel que soit le véhicule juridique et financier, nous serons au contact et en soutien.
Au contact, ça ne veut pas dire nationalisation, hein, on est bien d'accord.
Non, moi, j'ai eu l'occasion de le dire, et je suis très clair sur le sujet. Vous savez, nationaliser, ça veut aussi dire prendre le contrôle de l'entreprise. Or, je considère que s'agissant d'Air France KLM, nous avons un excellent patron d'Air France KLM, en la personne de Ben Smith, qui a une vision remarquablement juste du marché, qui a un projet qui est déjà en cours d'exécution avec des premiers résultats. Et je pense qu'il faut simplement aujourd'hui que l'État soit au bon niveau, au bon endroit. Et quoi qu'il en soit, l'ensemble des mesures, notamment par Bercy, a été envisagée, sont prêtes, et l'État saura agir aux côtés du groupe Air France KLM, évidemment.
Évidemment, je vous interroge sur le président Emmanuel Macron qui tiendra cette quatrième allocution lundi pour des Français qui s'impatientent et qui veulent en savoir plus et qui sont aussi dans une forme de défiance aujourd'hui. Elle s'affiche un peu partout, hein, les soignants un peu plus encore. Quid de ce déplacement hier et de cette visite à Didier Raoult, le professeur Didier Raoult à Marseille qui développe, enfin on le sait, qui administre de la chloroquine. Pourquoi ce déplacement-là ?
Vous savez, c'est la méthode du président de la République que de comprendre la réalité du terrain, en l'occurrence la réalité de l'avancée des traitements médicaux. Je pense qu'en temps de paix, on dit souvent que gouverner, c'est prévoir, mais en temps de crise, gouverner, c'est choisir. Et pour choisir, il est nécessaire de se forger une compréhension individuelle, voire intime de la situation. Et c'est ce qu'a fait le président de la République en visitant Didier Raoult, mais aussi...
Pardonnez-moi, avec le conseil scientifique qui entoure Emmanuel Macron depuis le début de cette crise, même avant, avec les experts qui l'entourent, il avait véritablement besoin de se rendre sur place pour discuter avec Didier Raoult et juger à l'aune de cette rencontre si oui ou non le traitement est valable ou pas.
Il ne faut pas oublier qu'il a rencontré certes Didier Raoult à Marseille, mais aussi les services du Kremlin-Bicêtre le matin en région parisienne. Et vous savez, ça met en acte la
complémentarité. Mais ce n'est pas là qu'il se rend compte, Jean-Baptiste Djebbari. Vous savez bien comme moi que ce n'est pas à ce moment-là qu'on se rend compte si oui ou non le traitement est efficace ou pas.
C'est important de parler de cette complémentarité entre le scientifique et le politique, parce que c'est un peu ça aujourd'hui la question. Et en matière de décision démocratique, je le dis parce que ça doit absolument être clair dans les esprits de chacun, le scientifique est clair, je crois que tous les éclairages, dont ceux de Didier Raoult, sont utiles, et le politique décide. Et c'est bien cela, la mission d'Emmanuel Macron, et c'est bien cette méthode de proximité, de contact, de compréhension personnelle des sujets qu'il a appliqués en allant voir les uns et les autres.
Je vous pose la question autrement, Jean-Baptiste Djebbari, est-ce que le président prépare une annonce décisive sur la chloroquine ? Est-ce que c'est possible,
non,
en tout cas ?
Je vous réponds en toute sincérité, je n'en sais rien. Je pense qu'il aura à cœur, effectivement, de redonner de la perspective sur ce que nous vivons, sur ce combat contre le virus, sur la façon dont nous allons, tant sur le plan sanitaire que sur le plan très pratique du déconfinement, nous sortir collectivement de cette crise. Et je pense qu'il aura, à dire ce qu'il a à dire et que nous saurons être patients d'ici lundi, tous collectivement, bien sûr.
Patient, ça veut dire une durée de confinement allongée. On est d'accord à ce stade que quand le ministre Jean-Michel Blanquer...
Le confinement dure dans les textes jusqu'au 14 avril. Et il a annoncé par communiqué au président de la République que cela durerait encore un peu. Je pense qu'il remettra effectivement un peu de perspective sur ce calendrier. et
ce sera à lui de dire, bien sûr.
Des actions qui sont en
juste un mot encore, Jean-Baptiste Djebbari, sur ce qui est évidemment de votre ressort, ces acheminements de denrées alimentaires, de masques de protection, où en est-on également? On voit quand même que par endroit et par produit, la chaîne logistique connaît des bugs. Hein.
Oui, c'est différents sujets. Vous savez que pour les produits sanitaires, nous avons un pont aérien qui fonctionne correctement, avec qui a connu quelques vicissitudes, mais que nous avons résolu notamment hier en lien avec les autorités chinoises. Et puis s'agissant de ce qu'on a un peu appelé l'inflation des prix, je rappelle que globalement, on a regardé ça de façon très précise, hein, les prix sont restés stables. Il y a certes eu quelques produits, notamment quelques fruits et légumes qui ont augmenté, qui reflètent des produits qui sont davantage d'importation française, ou en tout cas de production française, et aussi une chaîne logistique qui a été très déstructurée et qui a entraîné des hausses des coûts sur le secteur logistique. Mais sincèrement, nous faisons un travail extraordinaire d'intensité avec les transporteurs routiers, les logisticiens, l'agroalimentaire, la grande distribution. Et nous sommes en train, petit à petit, de nous assurer au jour le jour que les dysfonctionnements qui agissent ici et là ou qui se font jour ici et là sont résolus. Je salue d'ailleurs tous les acteurs, notamment les acteurs de terrain, les syndicats, les organisations patronales qui font un travail de grandes responsabilités et de grandes précisions sur ces sujets. Je voulais le dire à vos antennes.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Djebbari, en tout cas ce soir, d'avoir répondu à mes questions sur Europe 1, secrétaire d'État au transport. Merci d'avoir été avec nous.